Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, épisode 53, troisième saison en ce lundi 16 mai. J'espère que vous allez bien. Ce fut un week-end incroyable. Il y a eu 5 matchs numéro 7 dans la Ligue nationale de hockey. Et c'est pour ça qu'on est là au balado Sortie de zone, en collaboration avec les gars de la presse. Philippe Quentin qui est là. Salut Philippe.
Salut Jérémy.
Nous avons également, faire une phrase complète, sujet, verbe, complément. Nous avons également Alexandre Pratt. Salut Alexandre.
Bonjour.
Merci de m'aider, c'est très gentil. Stéphane White qui est là. Salut Stéphane.
Salut les gars.
Bon messieurs, 5 matchs 7 au courant du week-end. Avant même qu'on parle des résultats, je veux savoir, est-ce que le spectacle est à hauteur des attentes? Parce que quand on parle de match 7, c'est mythique dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce que c'est à hauteur de vos attentes, Philippe?
Ah, clairement, ça a été des matchs absolument spectaculaires. L'intérêt était là. Hier soir, je me suis couché quoi? Il était une heure du matin, je pense. Ça a été formidable, cette rencontre-là entre les Flames de Calgary, les Stars de Dallas, les Oilers d'Edmonton qui réussissent finalement un peu contre toute attente à remporter en fin de série. Les Maple Leafs qui réussissent pas. Bref, il y avait beaucoup, beaucoup d'enjeux. C'était spectaculaire. On a vu du très beau hockey. Pour moi, là, l'ensemble de la première ronde, je donnerais une note de 100% en termes de qualité du spectacle, sauf pour un événement qui m'a mis vraiment hors de moi, et c'est la blessure à Sidney Crosby. Je trouve que c'était un coup patent à la tête que Jacob Trouba aurait dû être à tout le moins pénalisé, probablement un match de suspension. Et là, de voir que ce coup-là, illégal, à la tête, qu'on essaie d'interdire dans la Ligue nationale ou qu'on dit qu'on veut interdire, que ça a eu un impact déterminant sur le résultat de cette série-là, ça, je trouve que c'est un œil au beurre noir pour la Ligue nationale de hockey.
Crosby n'était pas le même dans le dernier match.
Ben non.
On le sentait moins actif, veut pas. T'sais, tu veux revenir aider ton équipe, mais clairement, tu sais, moi, là, l'histoire de c'était pas clair. Là, on est rendu dans la micro-analyse de la gestion de l'image, quand tu sais définitivement que Trouba rate un peu son gars, sort le coup de le ramasse. C'est l'objectif est là.
Pire encore, le coup de Zadorov envers Glendening, la justification du comité de protection des barbares. Je disais le comité de des joueurs, de protection des joueurs, pardon. Donc, il a dit qu'il avait un angle d'attaque approprié, ce sont les mots, un angle d'attaque approprié quand même, et que conséquemment, la collision était inévitable. Mais je disais, si tu as un angle d'attaque approprié, la collision de devrait être évitable, tu sais. Puis ça, c'était encore pire. C'était un joueur moins important que Crosby, mais ça aussi, tu sais. J'abonde dans le même sens que Philippe. Ben, moi, j'ai adoré le premier tour de série. J'ai trouvé que c'était le plus beau week-end de hockey depuis longtemps, là, ce qu'on vient d'avoir. Tu sais, j'ajouterai aussi le match Caroline-Boston qui est fini. Les 10 dernières secondes, c'était hallucinant, là, je
disais. Boston a failli.
J'en avais le poil qui hérissait. Vraiment, c'est le plus beau week-end de hockey depuis vraiment longtemps, là, depuis même peut-être quelques années. Je comprends, le Canadien s'est rendu l'année dernière, mais tant de matchs importants en même temps, c'était spectaculaire. Malheureusement, je trouve que, tu sais, au niveau et de l'arbitrage et de la protection des joueurs, tu sais, ils ont vraiment failli au printemps. C'est un peu plate que ça, tu sais, que le narratif autour des séries soit toujours un petit peu gâché par ces histoires-là, mais on n'a pas le choix d'en parler. C'était flagrant, ces deux cas-là.
Moi, j'ai l'impression, puis Stéphane, je vais attendre ton point dans quelques instants, mais j'ai l'impression qu'encore une fois, le politique intervient dans le législatif. Ce que ça veut dire, c'est que les gouverneurs, il y a du babinage à gauche et à droite, puis là, on change un peu la façon dont les officiels vont prendre des décisions sur la glace, et ça, pour moi, je trouve que c'est malheureux comme résultat. On ne devrait pas faire ça. Stéphane, qu'est-ce que tu as vu du week-end? Es-tu d'accord avec ça dans un premier temps?
Oui, puis non. Là, quand à un moment donné, on joue au hockey, là, c'est sûr qu'il va y avoir des contacts, mais à un moment donné, il va y avoir des blessures. Puis, tu sais, si tu n'acceptes pas ça, va jouer au ballon balai, va faire d'autres choses. Mais à un moment donné, je sais Trouba, mais qui peut dire qu'il a fait pareil que tu prêtes? Ça veut dire, moi, j'ai plus vu de mon angle que c'est un geste instinctif pour se protéger. Quand tu te protèges, mais souvent, la première chose que tu vas faire, quelqu'un arrive face à face avec toi, c'est quoi ton première réaction? C'est lever de goutte.
Arrête.
Donc, à un moment donné, là, tu sais, on joue au hockey, là.
Arrête. Non, Stéphane, je t'arrête un instant.
Il va tout le temps avoir des choses de même, tout le temps. Puis ça fait des années que je suis dans le hockey. Puis il y a des années qu'on dit que l'arbitrage n'est pas correct, puis que le comité de discipline n'est pas correct, puis tout ça, mais. À un moment donné, comment qu'on va faire? On va jouer avec des grosses ballons en entour de nous autres, comme
Ben non.
Attendez. Là, OK. Là, donc,
on va prendre un numéro pour parler, là, pour répondre à ça.
Stéphane, old school, wait, je veux réagir à ça. Là, dans un premier temps, tu le sais comme moi, là. Puis pour vrai, là, on se parle pour vrai, là. Tu sais comme moi que Trouba, quand il s'en va là, il rate un peu, Sidney Crosby. Tu sais que Trouba, c'est pas pour se protéger. Crosby mesure à peu près 4 pieds 1 contre Trouba. Et Trouba sort le coude parce qu'il veut pogner Crosby, pas qu'il parte. Est-ce qu'il voulait littéralement lui donner un coup de coude en pleine face? Je suis pas sûr. Mais clairement, il voulait s'arranger pour que Crosby passe pas. Et faut que tu payes la conséquence de tes gestes, là. Là-dessus, là, sincèrement, Trouba, il voulait pas juste aller au porteur de la rondelle, là. C'était pas ça son objectif, là.
Ben, écoute. Moi, tout ce que je sais, c'est que la Ligue nationale l'ont pas puni. Les arbitres l'ont pas puni. Et puis, à peu près tous les commentateurs là, punissent. À un moment donné, moi, là, ça va tellement vite, ça a de l'air. C'était tellement instinctif. Je pense pas, moi, Trouba, il était là pour essayer de le blesser. Et puis, j'en ai vu des affaires de même. Puis je parlais justement avec quelqu'un cette semaine. Puis on en voit à tous les matchs. Mais là, c'est Crosby. Et là, on panique. Là, c'est Crosby. Mais ça aurait été un joueur de quatrième ligne. C'est certain qu'on n'en parle pas en ce moment.
OK, ding, prochain numéro, Philippe Quentin.
Ben, tu sais, moi, ce qui me choque, dans toute cette histoire-là, c'est que la Ligue, puis les dirigeants, puis les joueurs disent souvent, il faut pas que les arbitres aient une influence sur le match. Hein, il faut laisser les joueurs jouer. Ça, c'est le plus vieil argument. Stéphane, t'es d'accord avec moi? On a toujours dit ça. Ben, c'est exactement le contraire qui se produit. C'est qu'en n'agissant pas, ben, on vient d'influencer le match. Alors, l'argument, il fonctionne pas. C'est l'inverse qui fonctionne. Quand tu décides comme arbitre de ne pas donner de punition parce que tu veux pas influencer indûment l'allure du match, ben, tu l'influences parce que là, ça cause une blessure qui fait que Crosby ne joue pas la moitié de cette rencontre-là, rate la suivante, ça vient de changer la série. Pendant ce temps-là, Trouba, lui, qui a visé la tête avec son coude, on dira ce qu'on voudra, il est assez grand, il joue au hockey, c'est pas un joueur recru qui arrive dans la Ligue nationale, là, Trouba, il vient de blesser le meilleur joueur de l'équipe adverse puis les Rangers gagnent la série. Moi, j'ai un problème majeur avec ça, puis je pense que ce qui est dommage, c'est que, tu sais, tu dis, Stéphane, que ça fait longtemps qu'on parle de ça, puis ça a toujours été la même chose. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais il y a eu des progrès immenses qui ont été faits. Tu sais, il y a 10 ans à peine, Gary Bettman, dans une conférence à Toronto, déclare que les bagarres au hockey, c'est bon parce que ça agit comme un thermostat. Comme le thermostat dans une pièce. Autrement dit, quand c'est trop chaud, là, ben, tu peux une bataille, là, c'est comme si tu baissais le thermostat un peu. Il dirait plus une chose comme celle-là. Aujourd'hui, des bagarres, il y en a moins. Les coups à la tête, on connaissait pas les conséquences des commotions cérébrales il y a 10 ans. Pas autant qu'aujourd'hui. Là, on le sait aujourd'hui, là, que c'est grave, il peut avoir des effets à long terme, à court terme, à moyen terme, bien sûr, sur la qualité de vie des joueurs. On doit protéger la tête. Et tant que la Ligue nationale va se fermer les yeux sur des coups comme ceux-là, il va avoir des affaires, potentiellement terribles qui vont se produire. Puis Crosby, là, il devait être très inquiet parce qu'il y en a eu des commotions cérébrales ou en tout cas, il y a eu toutes sortes de problèmes.
Ouais, il y a un historique important.
Il y a un historique, puis là, regarde, il n'a pas joué un gros match.
Dans le dernier match, il n'était pas le même.
Je suis tout d'accord avec ça. Puis là, je suis content de t'entendre dire, Philippe, qu'il y a eu beaucoup de progrès.
Ouais,
je
c'est vrai.
Parce que tout ce que j'entends, encore, c'est comme toujours, puis ça ne change pas, puis c'est tout le temps la même chose, la Ligue nationale, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis là, ben, mais là, au moins, tu viens dire qu'il y a beaucoup de progrès. Ça, c'était au moins c'est une bonne affaire, mais je suis d'accord. Écoute, je suis d'accord que Sidney Crosby, ça a changé la série. Ça, je suis d'accord. Moi, mon seul point, c'est moi, j'ai jamais été. Je vais regarder, puis regarder et re-regarder. Je suis pas sûr que Trouba, c'était intentionnel. C'est pas été intentionnel. Il reste que le résultat, il est là, puis ça va arriver. Ça,
mais est-ce qu'il faut que ça soit intentionnel pour que ça soit sanctionné? Quand tu fais trébucher un joueur, là, est-ce que c'est parce que si t'as pas voulu le faire trébucher, est-ce que t'es puni quand même? Ben oui, t'es puni quand même.
Oui, exact.
Bon, mais pourquoi il faudrait que ça soit intentionnel? Il le ferait pas à la tête, qui paye pour?
Je sais, mais OK. La Ligue nationale n'ont rien vu, les arbitres n'ont rien vu. Et puis eux, s'il y a quelqu'un qui connaît ça, puis quelqu'un qui regarde et regarde ça, puis sont pas un ou deux, sont plusieurs, à un moment donné, j'ai tendance à lui donner le bénéfice du doute.
Ben pas moi. Pas moi, parce que c'est la même ligue. C'est la même ligue, Stéphane, qui dans les années 60 disait les joueurs peuvent pas porter un casque protecteur, ça va être terrible, ça va augmenter les coups salauds. C'est la même ligue qui a dit on peut pas commencer à interdire les bagarres, ça va augmenter les coups salauds. C'est la même ligue qui se traîne toujours les pieds, qui prend finalement les décisions, mais 10 ans trop tard. Puis là, il y aurait eu une chance d'envoyer un message clair, puis ils l'ont pas fait, puis moi, ça me met en mausus.
À ton meilleur joueur du circuit. Non, mais Stéphane, honnêtement, puis je vais laisser Alexandre réagir parce que là, il tripping dans le coin tout seul. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ton meilleur joueur, le joueur qui connaissait, selon moi, les meilleures séries présentement à travers toutes les formations, c'est Nick Crosby. Et un gars qui représente, qui est le visage de ta ligue. Pour moi, c'est important. Tantôt, Stéphane t'a dit, si c'est un joueur de quatrième ligne, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Ouais, mais on peut mettre ça à l'inverse aussi. Tu sais, on a suspendu un joueur des Leafs qui était un joueur Clifford, qui était un joueur de quatrième ligne. Quand c'est un joueur important, on le suspend pas non plus. Tu sais, fait que c'est bon pour un puis c'est bon pour l'autre aussi. Fait que la Ligue nationale, des fois, elle prend de bonnes et de moins bonnes décisions. Alexandre, t'as le numéro 3 dans la file pour t'obstiner avec Stéphane. Tu peux y aller, vas-y.
Ben, la Ligue a le devoir, à mon avis, de protéger ses joueurs importants. L'Association des joueurs a aussi le devoir de protéger les joueurs importants de la Ligue. Tu sais, on trouve qu'il y a du progrès. C'est vrai, là, il y a quand même beaucoup moins. Ben, d'abord, il y a presque plus de batailles comparées à avant, puis il y a beaucoup moins de coups à la tête. Mais tu sais, quand ça arrive, faut pas non plus justifier ça sur le fait qu'il y en a moins. Donc, tu sais, il faut arrêter. Après, c'est un peu comme dans le junior majeur où on dit qu'il y a moins de batailles. Donc, c'est correct quand il y en a. Tu sais, c'est un petit peu le cœur du débat, à mon avis. Ce qui est le plus plate un peu là-dedans, tu sais, j'aime les Rangers, j'aime les voir jouer. Là, c'est une équipe franchement excitante. Fait que, bon, qui passe, tu sais, je suis quand même content pour eux. Ce qui est un peu plate, c'est que ça va probablement aussi marquer la fin d'un cycle, tu sais, vraiment très important à Pittsburgh. Écoutez, j'en ai une bonne pour vous, là, une statistique qui va faire exploser votre cerveau. Combien de trios de joueurs dans la Ligue nationale ont joué plus de saisons ensemble que le temps? Malkin et Crosby dans toute l'histoire de la Ligue.
Tu parles trois joueurs importants
joueurs
dans un
ensemble,
club.
Ouais.
OK. Ben, écoutez, il doit en avoir eu chez les Canadiens quelques-uns. Là.
C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Le plus, c'est 15 saisons, puis c'était Béliveau, Backstrom et Henri Richard ou Claude Provost. Là, ça dépendait des années. Donc, c'est jamais arrivé. C'est vraiment la fin d'une époque, là, ce qui arrive à Pittsburgh. Parce que moi, je pense pas que les deux joueurs autonomes, donc Le Temps et Fleury, vont Temps et Malkin, vont tous les deux re-signer. Hey, à un moment donné, les Pingouins, il va falloir qu'ils passent à un autre appel, là, platement. Ils ont presque pas eu de choix au repêchage de premier tour dans les 10 dernières saisons. Et là, c'était vraiment, à mon avis, leur dernière chance ensemble, ce noyau-là, d'y aller. Puis ça a été un petit peu gâché par l'incident Trouba, qu'on le veuille ou pas, c'est ce qui est arrivé. Là,
bon, ben j'ai laissé beaucoup la défense parler. On va la défense étant Stéphane. On va passer à l'autre série, celle entre les Flames de Calgary et les Stars de Dallas. Mais Stéphane, là, tu entres en jeu. Jake Oettinger, gardien de but des Stars de Dallas. Mon Dieu, qui vient de se faire un nom dans cette série-là. Malgré le fait que les Stars ont perdu en prolongation, il a tellement été bon et solide. Est-ce que tu t'attendais à ce genre de performance de sa part?
Non, honnêtement, non, mais le talent est là pour ça. Éventuellement, oui, je m'attendais à que ce soit qu'il devienne un gardien de but dominant dans la Ligue nationale. C'est un premier choix il y a quelques années de Dallas. Et puis, avant le début des séries, j'avais fait la liste de tous les gardiens de but qui avaient zéro expérience dans la Ligue nationale. Puis moi, j'avais demandé à du monde qui, dans ce lot-là, va se faire un nom. Et puis, mais là, deux semaines plus tard, on le sait, c'est Jake Oettinger. Quelle série, quel match hier, premièrement, 64 arrêts. Quelle série, puis il n'y avait rien de... À un moment donné, les gars, tu peux regarder un gardien de but puis dire, oh, moi, ça ne durera pas, ça, il a été chanceux. Tu sais, il est dans une ballonne en ce moment pendant deux semaines.
Alak, exemple?
Exemple. Et puis, mais lui, tu peux voir que c'est pour, en anglais, là, it's for real. Et puis, je l'ai adoré. Et puis, il va être bon longtemps dans cette ligue-là. Ça a été le meilleur gardien de but de la première ronde au complet. Et puis, ben moi, j'ai aimé cette série-là. Une belle série de gardiens de but, du jeu serré. Markstrom était très, très, très bon. Mais l'autre était juste spectaculaire.
Messieurs, votre point de vue, tu t'es couché tard hier, j'imagine que c'était pour une bonne raison.
J'étais content d'abord de voir des équipes canadiennes aller un peu plus loin en séries éliminatoires. Des gens vont dire pourquoi t'es content qu'il y ait des équipes canadiennes. Ben, quand les équipes canadiennes ont du succès, je pense que ça peut augmenter un petit peu le niveau d'influence des équipes canadiennes dans la Ligue nationale. Quand tu finis dernier, tu sais, c'était toute une organisation de dernière place. Veux pas, ça joue un peu dans l'esprit populaire. Puis probablement dans l'esprit de la direction de la Ligue nationale. Puis là, ça fait longtemps que les équipes canadiennes n'ont pas remporté une Coupe Stanley. 93 avec le Canadien, c'est presque renversant. Pourtant, c'est bizarre. Il y a des joueurs de partout dans le monde, dans chacune des équipes. C'est pas une question de nationalité, mais c'est le pays du hockey ici. Puis de voir les équipes canadiennes qui réussissent, ça, j'ai trouvé ça le fun. Là, ben, heureusement ou malheureusement, elles vont se retrouver l'une contre l'autre. C'est le Canadien nordique à la sauce albertaine, les Oilers contre les Flames. Ça devrait être un grand spectacle. Mais de voir comment Daryl Sutter a réussi à mettre les joueurs de son côté quand il est arrivé en renfort, là, au milieu, c'était au milieu de la saison dernière. Ça semblait, tu te demandais pourquoi ramener un gars comme lui, très vieille école, puis il va tous les faire jouer défensif, puis tout. Puis là, finalement, tu vois Johnny Gaudreau qui marque le but gagnant, qui a joué beaucoup, qui après, Sutter va lui faire la collade. Les deux se regardent en souriant. Tu dis, coudon, Sutter, il a été capable d'adapter son d'adapter sa façon de diriger les joueurs, manifestement. Il a relancé ce gars-là qui allait nulle part. Alors, bravo.
Ben, je veux juste vous raconter une petite histoire. Quand les Kings de Los Angeles ont remporté la Coupe Stanley en 2011, Jonathan Bernier, qui était gardien de but pour les Kings, Sutter était un coach. Puis là, j'ai dit, c'est comment c'est se faire coacher par un old school comme ça? Stéphane, t'aimes beaucoup le mot.
Oui.
Donc, comment ça se passe? Tu sais, ce gars-là, des fois, aux entraînements matinales, il vient s'habiller dans le vestiaire avec nous, met ses patins dans le vestiaire, jase avec tout le monde. Il dit, quand il est coach, c'est plus le même gars, mais sinon, c'est un gars qui est hyper cool avec nous autres. Il nous parle tout le temps, ta famille, comment ça va? Tu sais, c'est un coach player, mais qui a un personnage assez sévère et, tu sais, de béton un peu derrière le banc, mais il semblerait que c'est un bon gars avec les joueurs. Et il a trouvé la bonne méthode avec les Flames de Calgary. Johnny Gaudreau qui marque, puis t'en as parlé, Philippe et Alexandre, je veux t'entendre. Écoute, Gaudreau, t'es là, il entendait le monde qui... C'était un événement majeur pour le jeune Gaudreau. Il est plus si jeune que ça.
D'ailleurs, il va devenir joueur autonome. Sans compensation, c'est quand même un excellent moment, je trouve, pour lui, pour marquer présentement. Eux aussi, leur fenêtre d'opportunité, elle est ouverte maintenant. Tu sais, donc, les Flames, c'est un petit peu comme on a parlé tantôt, les Pingouins sont sur la fin. Les Flames, ça ne durera pas éternellement non plus, parce qu'ils vont vraiment avoir des problèmes bientôt de masse salariale. Alors, de voir que cette équipe-là, tu sais, réussit à traverser un adversaire qui aurait dû être plus facile au premier tour, là. Moi, je les avais vraiment pris, je pense, en 5, les Flames. Je pense qu'il y avait consensus autour du fait que les Flames étaient pour remporter cette série-là plutôt facilement. Fait que de les voir quand même résister au gardien le plus hot des 50 dernières années dans une série, c'est quand même pas mal. Hey, juste une affaire, là. Ottinger.
Vas-y comme ça, on sait.
Lui, donc, il y a quand même un taux d'arrêt de 95,4% au printemps dans toute l'histoire de la Ligue nationale. Chez les gardiens qui ont fait 6 matchs ou plus, là, c'est la meilleure moyenne de l'histoire dans une année.
T'imagines?
C'est quand même incroyable. Dans toutes les datas qu'on a là, depuis, mettons, 70 ans là, pour les tirs au but à peu près. Fait, t'sais, qu'ils aient réussi à vaincre ce club-là, ça devrait les mettre en confiance pour la suite des choses. Contre Edmonton, ça va être une série absolument... Je veux dire, t'as raison de faire le comparatif canadien-nordique. Là, ça va être à ce point intense. Je pense que c'est probablement la meilleure rivalité présentement... Encore plus que Montréal-Boston, parce que là, ça s'est quand même effrité dans les dernières années, Montréal-Boston, mais je pense que ça va être des séries grandes.
Moi, juste pour revenir sur une chose, Alex, quand tu dis que ça fait 50 ans qu'on n'a pas vu ça, là, un jeune gardien comme ça, moi, je suis pas d'accord avec ça. Là. 50, c'est trop. 86, Patrick Roy qui arrive avec le Canadien, qui vole les séries une après les autres. Puis, tu sais, Ottinger, il était fantastique, mais il a fait une série. On ne sait pas s'il aurait tenu deux séries, trois séries, quatre séries. Ce qui est difficile en séries éliminatoires, c'est tenir, c'est garder sa concentration, d'être bon dans deuxième série, de pas avoir un passage à vide après le sixième, le septième match de la première série. Puis là, tu gagnes la deuxième de série, puis là, il en reste rien que quatre équipes. Puis là, il faut que tu gagnes la troisième série, puis là, tu te retrouves en finale. Tu sais, Ottinger, il a été spectaculaire une ronde. Il a perdu. Patrick, il a 20 ans, 21 ans, 4 rondes, il a gagné.
Absolument.
Puis il y a eu une performance un soir au Madison Square Garden de New York.
Foule,
là, j'étais là, c'était un match d'anthologie. Alors, je mets Patrick encore pour les 50 années.
Je veux laisser réagir Stéphane là-dessus. T'en penses quoi, toi?
Non, je suis complètement d'accord avec Philippe. Écoute, oui, Ottinger était wow, il était incroyable. Puis même c'est le faire pendant quasiment deux mois, là, c'est très, très, très difficile. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Et puis moi aussi, moi, le premier nom qui me venait à la tête là, quand que je parle de grosses performances en série, c'est Patrick.
Hey, j'ai juste un point que je voulais amener. Souvent, quand il y a un lanceur partant au baseball là, qui est en train de connaître un match en point de coup sûr, on le laisse sur le banc, personne n'y parle. Quand tu as un gardien de but qui est dans une bonne séquence, Stéphane, tu l'as connu avec Carey Price, entre autres, dans les séries ouais. l'année passée. Est-ce qu'il est mis à l'écart? Est-ce qu'on arrête de lui parler? Est-ce que juste toi qui rentres en contact avec lui? Comment ça marche?
On le met dans un congélateur, puis on le ressort, on le ressort 2 heures avant la game. Et puis, non. Écoute, mais honnêtement, comment ça fonctionne, c'est qu'on le laisse tranquille. On lui demande, c'est quoi que tu as besoin aujourd'hui? As-tu besoin d'aller sur la glace? Oui. As-tu besoin de pas y aller? C'est quoi? C'est lui qui décide. Quand tu es dans ta zone comme ça, là, tu ne sors pas, puis tu n'essaies pas de rien amener de nouveau, puis tu n'essaies pas de rien changer dans la routine. C'est lui qui mène. Et puis ça là c'est très important, c'est le gardien de but. OK, c'est quoi tu veux manger? Puis c'est lui qui mène. Quand tu es dans ta zone, tu déranges pas un gardien de but pour des niaiseries. On fait du vidéo juste pour maintenir, OK, juste pour rappeler des bons points, mais qui t'amène à rien de nouveau. Puis comme que je dis, au niveau des entraînements, si as-tu besoin d'y aller? Non, tu y vas pas. Oui, on y va y aller. Combien de temps? C'est lui qui décide.
Tu le sors du congélateur, 45 secondes au micro-ondes, va jouer. Oh, hey, let's go.
Je suis allé voir une stat intéressante sur Patrick Roy quand même. T'sais, donc, qu'est-ce qu'il avait fait exactement cette année-là? Donc, c'était 923, son pourcentage de reste, qui est franchement excellent pour un jeune. Mais une statistique qui est franchement étonnante. Dans le deuxième tour contre les Whalers, là, il y a eu 7 matchs. Là, le Canadien n'a jamais donné plus que 25 tirs au but en 7 matchs. Hey, on se souvient, mais il y avait Carbonneau, il y avait Guinness. C'était toute une équipe. Là, je veux dire, quand on regarde ça rétrospectivement.
Il était très bon défensivement. Voilà,
c'est
ça. Greenwalter.
C'est la série du but de Claude Lemieux sur Mike Liotte. Incroyable.
Mais il ne faut pas oublier une affaire. Il y a des parties de 25 matchs, de 25 buts contre qui sont beaucoup plus difficiles que certains matchs où tu as 37, 40, même 50 lancés. Parce que c'est des... Puis même Oettinger, il en a eu un au début de la série, deux même, où il a gagné 1-0 puis 2-1. Et puis, il n'avait pas eu beaucoup de lancés. Mais, à toutes les fois que tu as à faire un arrêt, c'est un arrêt qui est super important puis souvent qui est très difficile parce que en cause du contexte, en cause du score. Tu peux faire plein de belles arrêts, mais si le score est 4-1, c'est pas pareil. Donc, c'est souvent, les arrêts sont plus difficiles quand tu as moins de lancers et puis que le score est très bas. C'est là que moi, je me dis, wow, quel gros arrêt au bon moment. Puis ça, là, c'est quelque chose qu'on répète souvent. Le gros arrêt au bon moment.
Des fois, c'est pas la quantité, c'est la qualité de ce que tu fais.
Et l'importance du moment.
Exactement. Ouais. OK, on va s'arrêter quelques instants. Pendant cette pause, je vous invite à fouiller dans votre grand livre des stratégies parce qu'au retour, on parle des livres de Toronto. Qu'est-ce qu'on fait à Toronto? Patience ou changement? On s'arrête quelques instants.
Chez Canadian Tire, on a tout ce qu'il faut pour que vous profitiez pleinement de votre piscine ou de votre spa cet été. Trousse d'ouverture, produits d'entretien, équipement de nettoyage, jeux d'eau, vous trouverez de tout pour vous amuser. Vous en avez besoin? Nous l'avons. Canadian Tire, notre magasin pour la piscine.
On est de retour au balado Sortie de zone, épisode 53, troisième saison, compagnie des gars de la presse. Philippe Quentin qui est là, Alexandre Pratt qui est là également, Stéphane White. Messieurs, je vais commencer avec Philippe. Je t'ai vu sortir tes grands cahiers, tes feuilles poussiéreuses. Et là, tu cherchais dans tes livres de stratégie, tes grands philosophes à savoir qu'est-ce qu'on fait avec les livres de Toronto. Parce que les livres sont perdus encore une fois. Là, je vais juste rappeler, pour le plaisir de rappeler ça, ceux qui n'aiment pas les livres de Toronto. 6 fois de suite où on perd au premier tour. On n'a pas accédé au deuxième tour depuis 18 ans. Et ça fait 5 fois de suite que les Leafs de Toronto perdent un match numéro 5 au premier tour. Ça, c'est le coup de couteau dans le cœur. Sauf que c'est un bon club de hockey. Sincèrement, c'est un bon club de hockey. On a perdu contre le Lightning de Tampa Bay. Si on est logique, on dit on touche à rien. Si on est émotif, comme les partisans, comme la foule, un moment donné, on réclame des changements. Philippe Quentin, on fait quoi?
Moi, je suis dans le camp de ceux qui prétendent que ça prendra des changements à Toronto. Je pense que quand j'entends le coach Sheldon Keefe dire après le 7e match, où j'ai vraiment été impressionné par Tampa Bay, c'est la qualité du jeu d'équipe défensivement. mais c'était un peu comme s'il venait de réaliser ça. Là. Tu sais, c'était comme, j'ai trouvé ça un drôle de commentaire. J'imagine qu'il voulait, puis bon, c'est après le match, puis il est fatigué, puis on peut comprendre. Mais moi, je pense que les Maple Leafs de Toronto, là, ils feront pas mieux la saison prochaine s'ils changent pas un peu leur philosophie. Et c'est pas vrai, ils feront pas. Et c'est pas. On semble dire que ah, mais ils sont tellement prêts qu'ils vont réussir. Ben non, ça se peut qu'il y ait encore un échec. Moi, je pense qu'il faut qu'ils fassent un certain nombre de changements dans cette formation-là. Je pense que Don Bass, Shanahan, Keefe, ils ont eu toutes les chances au monde de faire ce qu'ils voulaient faire. Ça marche pas. Perdre dans un septième match, si c'est assez pour eux autres, dans la première ronde, ben, ils gagneront jamais. Ils gagneront jamais parce que t'es supposé être en Moses. T'es pas supposé dire, mais on avance, hein, on a perdu un petit
t'as
peu. T'as
eu deux
serré.
Matchs pour battre Tampa Bay.
Oui,
t'as
ben
eu un
oui.
match où tu menais 3-2.
Exactement.
Et t'as un match où c'est 3-3.
Alors, t'es pas capable d'enfoncer le dernier clou. Et puis, pour moi, il y a un problème là. Et là, je me dis quoi, ils vont faire la même chose, la même recette, ils vont arriver puis ils vont simplement se croiser les doigts en disant ben souhaitons que ça aille mieux l'an prochain. Ça va aller mieux l'an prochain. Pourquoi? Ben parce que ça peut pas faire autrement qu'aller mieux. Non, ça se peut que ça aille encore moins bien. Mmh. Alors moi je dis faites des changements. Est-ce que ça veut dire qu'ils changent tout le monde? Je le sais pas, mais moi s'ils reviennent avec tout essentiellement le même groupe, je pense pas qu'il va y avoir de grands changements pour l'an prochain.
Dans ce sens-là, page frontispice du Toronto Stars le lendemain où on disait encore à la saison prochaine, c'est ça? Donc vous allez nous dire encore espérons la saison prochaine. Ouais. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on a mis des photos des partisans. T'as beau croire en ton groupe quand t'es à l'intérieur de l'organisation, mais il faut à un moment donné tu te rendre compte des partisans qui sont alentour, qui eux vivent le drame depuis 18 ans qu'on n'a pas accédé au deuxième tour. Là. Puis la dernière coupe est en 1967 pour la plus grosse organisation canadienne devant le Canadien de Montréal. Quand même, là. C'est pas banal. Là. Alexandre, t'en penses quoi? Ouais. Changement ou on reste calme?
Je pense pas que personne à l'état-major va perdre son emploi. T'sais, je pense que ça aurait eu lieu aujourd'hui, là, donc je pense pas que ça va arriver demain. Demain, c'est l'heure du bilan. Je pense qu'il va y avoir des changements, puis ça va être forcé, en fait, les changements. C'est parce que présentement, ils sont tellement pris sur la masse salariale, c'est un peu comme le Canadien, et ils ont tellement d'argent investi dans leurs 8 plus gros joueurs qui, je veux dire, là, ils n'ont pas de gardien de but encore pour l'année prochaine. Ils ont Mrazek, là, mais on s'entend que ce ne sera pas leur gardien de but. Campbell et Jordan, tu sais, à un moment, il va falloir qu'ils payent un gardien de but, là. Je veux dire, puis ils n'ont pas grand-chose dans les ligues mineures. Fait qu'ils vont devoir échanger un de leurs joueurs étoiles pour libérer de la masse salariale, pour, entre autres, aller chercher un gardien de but. Bon, après, c'est quel joueur étoile va partir? Puis il faut qu'ils signent d'autres joueurs, là. Ils ont comme 8-9 joueurs à signer au salaire minimum, là. Puis des gars comme Mikhaïev, ça reviendra pas au salaire minimum l'année prochaine, tu sais. Fait que, moi, je pense qu'ils vont garder Matthews et Marner ensemble. Et Tavares, une clause de non-mouvement. Donc, je le vois pas aller nulle part non plus. Donc,
Nylander, par contre, pourrait
partir. C'est ça. Alors, les deux cibles, c'est Nylander ou, peut-être un des défenseurs de l'équipe. Quoique eux autres ici, il y en a qui ont des clauses de non-mouvement dans l'équipe. Donc, Nylander serait le candidat, tu sais, je veux dire, tout indiqué. C'est un très bon joueur de hockey, là. On l'a encore vu dans le dernier match. Mais c'est quand même un joueur qui joue un petit peu en périphérie. T'sais, c'est un joueur qui aime ça, tourner avec la rondelle. Je pense que c'est Patrick Lalime, je pense qu'il soulignait la TVA ou en tout cas, ou un des analystes de TVA qui soulignait que faisait un petit peu penser des fois à Piqué Subban. T'sais, Piqué faisait des tours de glace avec la rondelle, mais tant qu'il faisait des tours de glace, il était pas dans la zone dangereuse. Sauf que Piqué, c'est un défenseur. T'sais, Nylander, c'est un attaquant, là. Puis c'est pas un gars non plus c'est pas le gars qui va aller dans les coins travailler plus fort non plus. Ça leur a peut-être un petit peu manqué, ça, surtout dans le dernier match, là, où il a perdu des batailles le long des bandes pour cette raison. Là, je pense que ça va être le joueur sacrifié dans l'organisation pour se renforcer un petit peu plus du côté défensif.
Carl Dubas, directeur général des Leafs de Toronto, était directeur général avec les Peets de Peterborough dans la Ligue de l'Ontario. L'entraîneur-chef des Peets de Peterborough était Sheldon Keefe. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Dubas, son homme, c'est Keefe. Ouais. Mm-hmm. Ça veut dire que si Keefe, il part, d'après moi, Dubas part aussi. Stéphane, t'en penses quoi?
Ben, j'en pense que... C'est sûr qu'il faut un changement. Quand ça fait 5 ans en ligne, écoute, à un moment donné, là, tu fais le gâteau avec les mêmes ingrédients, puis il sort pas comme tu veux, puis tout le temps, mais faut que tu changes quelque chose, sinon, si tu refais la même chose, tu vas revoir la même chose. Donc là, tu changes de chef ou tu changes d'ingrédient. Là, c'est peut-être un petit peu des deux, on va changer de chef, mais il va falloir... Parce que maintenant, c'est rendu psychologique pour Toronto. Le monde, ils peuvent dire, on est tellement proche, on était à un but de tourner ça de bord. Mais ça s'est pas passé. Puis ça a été la même histoire l'année passée. Et puis c'est quoi qui dit que ça va être différent l'année prochaine? À moins que tu fasses certains changements. Et puis probablement en partant de malheureusement, je trouve que c'est un très bon entraîneur. Probablement ça va prendre une nouvelle voie à ce niveau-là. Moi aussi, je suis pas sûr que la direction va sauter. Et puis, ce qui est de Nylander, en passant, les gars, là, ça fait 2 ans qu'il est sur le marché. Ça fait 2 ans qu'ils sont pas capables de s'en débarrasser. Donc, il va falloir qu'il soit très imaginatif pour essayer de s'en débarrasser. Et puis, c'est la raison pourquoi il est encore là. Donc, et puis le gardien de but, oui, ça lui prend un gardien de but, mais c'est drôle de dire, ah, ça va falloir qu'il mette de l'argent sur un gardien de but. Moi, depuis que je suis à Montréal, on dit, ah, notre gardien de but, il est trop cher à payer. Et puis, ça veut dire, quand tu n'as un bon, tu le réalises pas. Quand tu n'as pas un bon, c'est là que tu le veux.
Exactement. Alexandre, tu voulais ajouter quelque chose?
Mais tu sais, moi, je trouve quand même, les Maple Leafs, ils ont joué une très bonne série. Là. Je veux dire, tous les gros canons des Maple Leafs sont produits.
Tout fait qu'est-ce qu'il y avait à faire.
Oui, c'est ça, exactement. Alors que c'est pas nécessairement le cas de tous les joueurs là, du Lightning. Pis,
est-ce que je peux ajouter juste un point? Excuse-moi, je te coupe. Moi, je pense que Austin Matthews était dans une autre étape cette année. Là, il a avancé. Il a bloqué des lancers à un moment donné. Il a fait des mises en échec. Ouais. Dans le dernier match, je suis pas sûr que Marner était rendu là. Marner, encore une fois, il était ses talons. Il n'y avait pas d'espace sur la patinoire. Peut-être le fait qu'il y ait un plus petit gabarit, ça l'a désavantagé. Mais Marner n'était pas rendu où Matthews est rendu présentement. Non. Ça, c'est un point là, que je trouve qui est important.
Mais tiens, on le compare aussi probablement au un des deux meilleurs joueurs de la Ligue aussi, c'est peut-être un petit peu difficile là-dessus. Mais tu sais, ils ont produit. Là. Puis, moi, je pense qu'une partie de la différence, on parle de la différence, c'est dans les détails. Ça, c'est comme un jeu par un but. T'sais. Jack Campbell a quand même eu des séries ordinaires. T'sais, il est en bas de 900 de pourcentage d'arrêt. En série, ça compte là, quand même. T'sais, on dit pas mettre de l'argent ou mettre de l'argent. Il gagnait quand même bien juste 1,6 million cette année. Fait, il en a donné bien plus aux Leafs que ce qu'il y avait comme ça. Sauf que là, il reviendra pas 1,6 million l'année prochaine. Il va falloir que les Leafs payent quelqu'un pour aller dans les buts. Puis ils l'ont pas, cet argent-là.
Mmh. Hein, Stéphane, tu l'avais dit, le moins payé des deux gardiens va gagner la série.
C'est un petit peu ça, malheureusement. Puis Vasilevski était très bon le dernier match. Il a fait des gros arrêts encore là. Puis encore là, je regarde pas les chiffres. Encore là, il a fait des gros arrêts au bon moment. Et puis, ça lui a permis de se sauver avec la série. Mais écoute, Jack Campbell, je sais qu'il y avait beaucoup de pression, mais je crois pas que c'est le gars avec qui que tu veux aller là, jusqu'au bout, malheureusement.
Ouais. Moi, savez-vous qui est mon joueur le plus utile à son équipe pour Tampa Bay dans cette série-là?
Tampa, vas-y.
Tout fin seul en avant.
Qui?
Il n'a pas joué, mais c'est Julien Brisebois. Tu sais, Julien Brisebois, il a encore démontré pourquoi il est le meilleur directeur général dans la Ligue nationale. Il va chercher à la date limite des transactions Nick Paul. C'est, de toutes les transactions qui ont été faites à la date limite, c'est peut-être une de celles dont on a le moins parlé. Je suis allé revoir ce que Julien Brisebois a dit la journée de la transaction et il déclare: Nick Paul est bâti pour les séries éliminatoires. C'est le genre de gars dont on a besoin en série. Bon, là, il vend ses qualités et tout. Il se retrouve dans le 7e match. Braden Point, c'est Braden Point qui est blessé. Ouais. Gros joueur pour Tampa Bay. Ouais. Hein, c'est dur pour eux là, dans un 7e match à l'étranger. Et qui sort tout à coup, marque 2 buts, plus il renverse Campbell tout à coup sur une attaque. Nick Paul. Nick Paul devient le héros de ce 7e match-là et c'est Julien Brisebois qui est allé le chercher à date limite des transactions. Tu sais, je regardais ça là, puis je me disais, j'espère que Jeff Gordon puis Kent Hughes prennent des notes. Ça là, Julien Brisebois, pour moi, c'est le modèle. C'est le modèle. Il a encore pris la bonne décision.
Ah, mais il y a des bons ingrédients quand même.
Mais Nick Paul était disponible pour toutes les équipes. Mais c'était pas que Toronto aurait pu l'avoir aussi.
Puis deux, quand même, tu sais, on parle de plafond salarial depuis tantôt. C'est une équipe là qui est égorgée là. Je veux dire, sérieusement, ils ont plus d'espace. Puis te dire que ton troisième trio là, te coûte à peu près 3 millions de dollars pour la production qui est là, qui est quand même remarquable avec Eagle notamment puis Colton. Tu sais, c'est une équipe qui gérer le match avec précision. Là. On est au scalpel ici là, dans les dépenses. C'est vraiment, honnêtement, c'est
tout beau.
Oui, exactement. Au niveau de la gestion, absolument.
C'est un très bon point, Phil, quand tu parles de Nick Paul. Quelle acquisition. Ben, moi, je me souviens de la journée de la date limite des échanges, quand que j'ai su qu'ils ont échangé Nick Paul. Je me suis dit, pourquoi? C'est le genre de joueur qu'Ottawa a besoin en ce moment. Et puis, je suis le coup, là, parce que j'ai fait beaucoup de games des Sénateurs avec RDS cet hiver. Mm-hmm. J'ai eu la chance de le voir souvent. Et puis, sur le coup, j'ai dit, pourquoi qu'il laisse aller? Et puis, mais regarde, Julien, il l'a vu, lui.
Ouais. Tu veux ajouter quelque chose? Ben, parlant de gars qui ont surpris quand même, Max Domi, deux buts dans un septième match.
Il a joué 6 minutes dans le match.
Quand même.
Il a joué 6 minutes.
Mais c'était quand même deux buts. Il faut que tu sois capable de faire ça au bon moment. C'est ça l'histoire. Mais ça
6 minutes payantes.
Exactement. Ça m'amène à mon prochain point. Les Bruins de Boston qui sont éliminés par les Hurricanes de la Caroline. Est-ce que c'est la fin d'une belle époque, celle des Bruins, ou le début d'une belle époque, celle des Hurricanes de la Caroline?
Les deux, hein? Ben, les deux, parce que je pense pas que Bergeron va revenir, peu importe, là, il va prendre à la retraite ou il va aller ailleurs, mais je pense pas qu'il va revenir, puis c'est quand même l'arme de cette équipe-là, là, tu sais. Mais moi, je crois beaucoup aux Hurricanes. Je pense que c'est même un club qui peut gagner la Coupe Stanley, puis j'en ai pas souvent parlé cette année dans le balado. Je trouve que c'est une équipe absolument sous-estimée et sûrement la meilleure équipe défensive de la Ligue nationale.
Sans Frédéric Anderson devant le filet.
Ils ont même eu un troisième gardien de but, là, au début de la série, puis même Ranta, il avait jamais gagné. Il y a 33 ans, là, jamais gagné un match en série dans sa carrière dans la Ligue nationale en série. T'sais. C'est une puissance incroyable en attaque. Puis autant on tripe, t'sais, je veux dire, comme amateur, évidemment qu'on remarque plus les clubs offensifs dans la Ligue nationale. Là, mais ça, là, c'est l'équivalent t'sais, des meilleurs clubs. C'est l'équivalent des Blues de Saint-Louis puis de l'Avalanche du Colorado, mais version défensive, c'est un club d'élite. On les remarque pas, mais ils sont extrêmement efficaces.
Oui, tu voulais ajouter, Stéphane?
Caroline, ça va être une des rares équipes de la Ligue nationale peuvent peut-être gagner la Coupe cette année avec du goaltending moyen. Et puis, parce que la façon que cette équipe-là joue, ils jouent tellement disciplinés, ils sont impeccables dans les trois zones, si je l'ai dit toute la saison, un équilibre dans les quatre premiers trios incroyable, une équipe très disciplinée au point de vue physique, mais surtout au point de vue de respecter le plan de match. Et puis, c'est le genre d'équipe qui peuvent gagner la Coupe Stanley sans un gardien de but de pointe, ce qui n'est pas le cas comme une équipe bon, comme Tampa Bay, qui ont besoin de Vasilevski à son meilleur. La Floride, ils pourront pas gagner si le gardien de but sont pas à lui meilleur. C'est le même pour la plupart des équipes, mais Caroline, eux, peuvent le faire.
OK, là, je suis en train de prendre des notes. Je marque Phil, Alex, Stéphane, Jérémy, parce que c'est le moment des prédictions, chers amis. Les séries débutent demain dans la Ligue nationale de hockey, le deuxième tour. La Floride va affronter Tampa Bay, Saint-Louis contre le Colorado. Et mercredi, vous aurez les Rangers de New York qui affrontent les Hurricanes et les Oilers affrontent les Flames. OK, là, j'espère que vous êtes prêts. Vous avez sorti votre boule de cristal. À tour de rôle, je vais vous demander vos choix pour le prochain tour, pour le deuxième tour des séries. Philippe, je commence avec toi. Floride contre Tampa Bay, qui vois-tu gagner cette série-là? Et amène-nous un petit chiffre en combien, mettons.
OK. Tampa Bay, ça va être très serré en 7.
Tampa Bay en 7.
Je pense
donc
que battre les champions de la Coupe Stanley, c'est difficile. Je pense qu'ils ont prouvé beaucoup de choses contre Toronto. Ils sont revenus, gagnés à Toronto. Ils sont sur une petite lancée.
OK, parfait. Alex?
Les Panthers en 6. Je ne suis pas certain de l'état de santé de Braden Point.
Non, il y avait de là, ça avait de l'air douloureux, son histoire. C'était pas facile. Ouais. Stéphane, Tampa Bay, Floride.
Moi, je vais avec la Floride en 6 aussi. Et la raison, c'est moi aussi, c'est Point en partant. Si lui, c'est probablement le joueur le plus important. Et puis, je sens un petit peu, là, ils ont eu une série très difficile, tu vas me dire, Floride aussi, là. Mais je sens que la Tampa Bay, ils ont beaucoup de hockey depuis 2 ans. Puis ça, à un moment donné, là, ça te rentre dans le cadre. Et puis, donc, Floride en 6.
Moi, je vais y aller avec Tampa Bay en 6 contre la Floride. Et je vais vous dire pourquoi. Indiscipline. La Floride sera indisciplinée et croche contre le Lightning de Tampa Bay, qui va voir Kucherov marcher en avantage numérique, ce qui n'a pas été le cas contre les Leafs de Toronto. Puis Vasilevski, excusez-moi, mais la switch à on est allumée dans le dernier match, on l'a vu. Là, on espère qu'elle reste ouverte comme ça. Donc, je vais avec Tampa Bay en 6 pour ce premier duel. Dans le deuxième duel de demain, Saint-Louis contre le Colorado. C'est drôle, on n'a pas parlé beaucoup, tu sais, parce que Colorado est sorti Nashville rapidement. Donc, à tour de rôle, Philippe, Saint-Louis, Colorado.
Moi, je pense que pour l'Avalanche du Colorado, ça va être une autre courte série. Je ne mettrai pas en 4 parce que 4, ils n'ont pas joué depuis longtemps. Peut-être qu'ils vont être un peu au ralenti en partant, mais Colorado en 5, je pense que c'est la série la plus évidente pour moi de trouver le gagnant. Là.
Colorado en 5, parfait, Alex.
J'ai mis Colorado en 6, mais c'est pas la série, moi, dont je suis plus certain. Hey, Saint-Louis, là, depuis la date limite des échanges, c'est le club le plus en feu de la Ligue nationale. C'est celui qui marque le plus de buts. Ça va être de l'attaque contre de l'attaque, tu sais. Fait que, mais je vais quand même avec l'Avalanche en 6.
OK, Stéphane.
Colorado aussi en 6. Mais Saint-Louis sera pas facile parce que c'est une équipe bâtie pour les playoffs, spécialement à maison, là, sont durs à jouer.
J'aurais tellement le goût de mettre Saint-Louis. Je vous dis.
Ben,
là,
ça serait pas
si
le pire des
club
choix.
Un club peut surprendre un Colorado. Vas-y. Non, mais pensez-y, là. S'il y a un club qui peut surprendre un club comme Colorado, qui est jeune, qui, tu sais, qui va Saint-Louis, se faire brasser, c'est les Blues. OK, fait que j'y vais. OK, j'y vais. Go. Les Blues de Saint-Louis en 7 contre le Colorado.
On va avoir d'un génie si ça se passe.
On garde l'enregistrement.
Si jamais ça arrive pas, on n'en parle plus jamais. Ceci étant dit, mercredi.
Pas sûr de ça.
Ouais, c'est ça. Mercredi, les Rangers qui affrontent les Hurricanes. Messieurs, Philippe, je commence avec toi.
Les Hurricanes, pour moi, sont certainement des prétendants pour remporter la Coupe Stanley. Les Rangers ont fait un beau parcours. Là. On en a parlé abondamment tantôt là, de leur série contre les Penguins de Pittsburgh. Mais moi, je favorise les Hurricanes. Je pense qu'on est une équipe plus complète, plus équilibrée. C'est une belle équipe, beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Je les vois gagner en 6.
OK. Caroline en 6, Alex?
Tu vas être la Caroline, mais en 7, je pense... Oui, en 7. En 7. La situation des gardiens...
Les Rangers sont la première équipe de l'histoire à revenir 1-3 et tirer de l'arrière dans le match 5-6-7 et gagner la série.
Oui, absolument. Non, mais les Rangers ont beaucoup d'attaques. C'est aussi une équipe qui est bien balancée sur ses trois premiers trios. Ça chute vite après, ceci dit. Mais tu sais, ils ont du talent, les Rangers. Ils ont un gardien de but qui n'a pas été extraordinaire à tous les moments aussi dans la première série. Donc, ça va jouer aussi. Sauf que... Puis, on ne sait pas encore exactement l'état de la situation des gardiens de but en Caroline. Mais je crois que Caroline, c'est une solide machine. Moi, je les vois en finale de la Coupe Stanley. Donc, je vais avec Caroline.
Stéphane?
Moi aussi, Caroline va gagner en 6 la finale de la Coupe Stanley.
On va commencer avec le deuxième.
Non, c'est parce que
il s'est mêlé dans ses cartons, il y avait
toujours une longueur d'avance. Même deux.
J'attendais une réaction, c'est parce que Caroline, pour moi, là, je les vois en finale. Mais non, j'ai Caroline en 6. Et puis, pourquoi en 6? Parce que les Rangers, avec Chesterkin, il peut envoler une coupe à lui tout seul. Donc, Caroline, en principe, pas de problème là.
OK, moi, je vais avec Caroline en 5. Tiens-toi, ping, merci, bonsoir.
Wow.
C'est ça qui est ça. Et c'est parce qu'à un moment donné, ils n'ont plus d'iPad sur le banc des Rangers. Ils sont brisés.
Ça, c'était-tu bon? C'était extraordinaire.
Crider de dire, donne-moi ça, là, arrête, puis va jouer au hockey, t'es capable.
J'étais tellement content de voir ça.
Moi, je n'étais pas content. Moi, je pensais qu'ils disaient la presse. Il y avait ma chronique de samedi, je trouvais que c'était flatteur quand même.
Okay. Non, juste pour les gens qui ne l'ont pas vu, Zibanejad retourne au banc, puis il veut regarder son dernier jeu sur la tablette, alors un préposé lui donne une tablette. Il veut regarder son jeu, puis Crider lui arrache la tablette, la garoche en arrière, l'air à dire, toi là, concentre-toi sur la game.
Il l'encourage,
tu feras du iPad quand ça sera fini.
Tellement content parce que ça, à un moment donné, ça devient, oui, c'est un bel outil, mais à un moment donné, ça devient trop. Les joueurs, c'est plus concentré à regarder son dernier chiffre, puis à un moment donné, tu décroches même de la partie. Puis on avait un à Montréal il y a quelques années, et puis je pense que c'était Claude qui avait dit, à Luke Christensen, va voir ton gars, là, puis dis qu'il lâche son maudit iPad. C'était Victor Mété. Victor, il était tout le temps sur, tu sais, c'était une affaire, à un moment donné, c'est un bon outil, mais abuse-en pas. À un moment donné, reste dans le moment, reste dans la partie aussi.
Mais il y a des joueurs du Canadien, c'est les plus jeunes, ils le font systématiquement. Là. Nick Suzuki,
tout le temps,
entre autres choses.
Exact.
Il y a
une limite, à un moment donné. Là, que, puis je ça pour dire que j'étais content, un vétéran ou un Crider. Il dit, à un moment donné, là, focus sa game, là, puis reviens sur la terre.
C'était vraiment bon.
Je pense qu'il y a plein de parents qui aimeraient ça faire ça avec les kids une fois dans
Oui.
Bon, OK, il nous reste une série parce que là, t'es en fil. Les Oilers, la bataille de l'Alberta, je vais le dire. Les Oilers contre les Flames de Calgary. Philippe, qui va sortir vainqueur?
OK, là, j'ai un gros, gros problème. C'est vraiment la raison contre le cœur. Alors, la raison me dit que les Flames vont gagner, mais moi, j'aime les Oilers. J'aime McDavid, j'aime Draisaitl. Je trouve ça le fun de les voir jouer. Alors, je pense que les Flames forment la meilleure équipe, mais entre la raison puis le cœur, c'est la série de la Coupe Stanley. Il fait beau, le printemps est enfin arrivé. Je vais me fier à mon cœur. Alors, je vais dire les Oilers.
Je vais dire les Oilers en 6. J'ai pris ça en note. Parfait, Alex.
Même raison, je prends les Oilers en 7. McDavid s'est vraiment réveillé dans les 7.
Avez-vous vu la mise en échec qu'il a donnée au début du dernier match? Le match commence, puis McDavid décide. Tu sais, chose qu'il ne fait pas habituellement. Le gars s'est retrouvé complètement renversé. C'est là que tu vois qu'il était.
Ah non, mais dans les 3 derniers matchs, lui, il est passé en mode turbo plus, 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 plus.
Il a planté son équipe après le sixième match. Ouais. Quand il a dit, ben planté, tu sais, quand il a dit, hey, 4 buts, ça devrait être assez pour gagner. Tout ça pour dire que McDavid, là, il veut gagner cette année, puis il assume un leadership qu'on lui a jamais vu.
Il répond aux critiques, en fait.
OK, messieurs, là, je vous trouve beaucoup trop enthousiaste. Vous avez oublié que c'est Mike Smith qui est dans le filet pour les Oilers d'Edmonton. Stéphane, je vais avoir ta prédiction pour la série entre les Oilers et les Flames.
Aucune hésitation, Calgary. Aucune hésitation. La grosse raison, tu viens de la nommer, Mike Smith. Pas qu'il il était bon contre les Kings. Il était juste. Il a fait sa job. Il n'a pas été outstanding, puis il n'a pas donné de mauvais buts. Mais Calgary, ils ont été tellement dangereux contre Dallas. Tu sais, quand tu shoots, tu as 50 puis 67 lancés, là, Mike Smith, ça va être trop pour lui. Donc, Calgary.
En combien?
En 6.
Calgary en 6, Stéphane. J'y vais avec le même calcul que toi. Calgary en 6 contre les Oilers d'Edmonton. Donc, ça sera les émotifs d'Edmonton contre les rationnels de Calgary.
Je tiens à dire que les émotifs, ici, les motifs a eu 608 au premier tour.
Oh, quand même.
Et que Guillaume, mon collègue Guillaume, a eu 7 en 8.
7 en 8. Ouais. Hey, bravo à lui, quand même. Félicitations.
7 en 8, comment ça qu'il s'est trompé une fois?
Je pense trompé dans Minnesota.
Manque de concentration.
Regardez l'iPad, c'est ça. L'histoire. OK, fait qu'on s'arrête sur pendant quelques instants pour retour. Écoute, il y a des congédiements, il y a des remplacements qui ont été faits dans la Ligue nationale de hockey. On fait le tour. Entre autres, on regarde ce qui s'est passé du côté des Golden Knights de Vegas.
Chez Canadian Tire, on a tout ce qu'il faut pour que vous profitiez pleinement de votre piscine ou de votre spa cet été. Trousses d'ouverture, produits d'entretien, équipement de nettoyage, jeux d'eau, vous trouvez de tout pour vous amuser. Vous en avez besoin? Nous l'avons. Canadian Tire, notre magasin pour la piscine.
On est de retour au balado Sortie de zone, épisode 53. C'est la troisième saison en compagnie de Philippe Quentin, Alexandre Pratt et Stéphane White. Messieurs, Pete DeBoer, Bye Bye Love, c'est terminé avec les Golden Knights de Vegas, a été congédié. Je vous rappelle que les Golden Knights, équipe avec le plus grand nombre de joueurs perdus, matchs perdus par joueurs blessés dans la Ligue nationale de hockey, qui ont terminé à 3 points d'une place en série. Lui, c'est terminé, a été congédié. Êtes-vous surpris de voir DeBoer quitter, Philippe?
Non, pas vraiment. J'ai entendu une entrevue de Jonathan Marchessault à RDS après l'élimination de Vegas. Puis, tu sais, tu sentais que... On n'a pas réussi à trouver les solutions. Il y avait un sentiment d'inachevé. Puis, tu sais, quand tu vois ça, à quelque part, c'est le coach qui... Lui, il n'a pas parlé du coach du tout. Là, c'est moi qui en parle. Mais, tu sais, quand j'ai entendu ce commentaire-là, je me suis dit, il y a peut-être des problèmes dans cette équipe-là. Alors, non, je suis pas étonné. Puis, c'est une organisation assez impatiente, Vegas. Hein?
Est-ce que ça se peut qu'il ait perdu un peu son vestiaire l'année passée avec Fleury puis Lehner devant le filet?
Possible.
Ça n'a pas créé juste des heureux là, de voir Robin Lehner être là devant le filet puis voir Fleury quitter à la fin de la saison. Peut-être que ça a créé un peu de dissension dans le vestiaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ben, peut-être, là, mais il y a ça. Puis écoute, au niveau de talent qu'il y a là, cette équipe-là devrait être dans les séries. Il n'y a même aucun doute. Puis le directeur général a quand même joué une grosse carte en allant chercher Eichel. Puis tu sais, lui aussi, là, il doit sentir un petit peu la chaleur après cette transaction-là, puis tu te rends pas dans les séries. Fait que c'est plus facile de congédier ton coach dans ça-là, puis de dire comme, regarde, moi, je pense que j'ai fait la bonne transaction, mais lui, il l'a pas amené plus loin. Mm-hmm. C'est une équipe qui en a arraché en avantage numérique. Ça devrait pas être une équipe qui en arrache en avantage numérique. Ils sont 25e de la Ligue cette année. Puis tu sais, l'avantage numérique, c'est une des seules facettes du jeu sur laquelle un entraîneur a un réel impact parce que tu es quasiment sûr d'avoir la rondelle et un joueur de plus. T'sais. Donc, souvent, on va remarquer que les équipes qui en arrachent un avantage numérique congédient leur entraîneur. C'est ce qui est arrivé là. Moi, je suis pas surpris du tout.
Stéphane?
Pas surpris. Moi aussi, j'ai pas aimé l'épisode premièrement l'année passée avec Fleury. Je pense que ça a fait beaucoup de mal, plus que le monde pense, surtout au niveau des vétérans. Et puis l'autre chose, j'ai senti, moi, depuis que DeBoer a remplacé Gérard Gallant, que cette équipe-là avait perdu un petit peu son identité des deux premières saisons, où c'est une équipe là, qui était très rapide, très, très axée sur l'offensive, très dynamique sur la patinoire. Et puis on a engagé Pierre DeBoer pour un petit peu refermer tout ça, le faire jouer cette équipe-là comme DeBoer coachait au New Jersey, ou à Saint-Nosé, une équipe beaucoup plus défensivement, puis c'est pas l'identité de cette équipe-là. Et donc, j'ai jamais revu les Golden Knights comme qui étaient dans le temps de Gérard. Et puis là-dessus, mais, malheureusement, DeBoer, il paye. Mais il y a le mais, il était, comme tu dis, l'équipe la plus affectée au niveau des blessures, puis pas à n'importe qui, à des Mark Stone, à des Leonard, à des Martinez, à des Pietrangelo, à des Eichel, à des Pacioretty. Donc, ça y a fait très mal, mais j'ai pas aimé la façon qu'il y a l'identité qui a amené cette équipe-là.
Il y a un drôle, tu sais, il y a une face, tu sais, moi, si j'étais joueur, il me semble que ça cliquerait pas. Il y a de l'air comme, tu sais, t'as de la
sa
misère
face
à...
Ça revient pas.
Non, il y a de la misère à jaser avec lui. Je l'ai souvent vu en point de presse. Ça, je sais pas, ça clique pas. Fait que j'imagine que quand t'es joueur, si t'as de la difficulté à communiquer avec ton entraîneur, ça devient un peu difficile. Bon, mais bref, je joue pas dans la Ligue nationale, c'est pas un problème d'abord. Lane Lambert qui succède à Barry Trotz, qui a été congédié par Lou Lamoriello. Dieu le Père a parlé, donc Barry Trotz a quitté. Vous en pensez quoi? Barry Trotz, est-ce qu'il pourrait devenir un candidat intéressant pour, je sais pas, Toronto?
Ben oui.
Winnipeg.
Winnipeg?
Oui, monsieur.
Vas-y, explique.
Bon, premièrement, c'est un gars du Manitoba, Barry Trotz, et puis je sais qu'il connaît très bien Kevin Cheveldayoff. C'est drôle parce qu'on parlait de lui justement en 2016, et puis on parlait de moi, Barry Trotz, avec l'équipe Canada à Coupe du Monde. Et puis à un moment donné, on a établi sur un sujet à niveau de Kevin, puis il m'avait dit ça, « Ah, je connais bien Cheville, puis tout ça. » Donc tout ça mis ensemble, écoute... Je lance ça de même, mais je serais pas surpris. Ça serait tout un coach pour Winnipeg.
Ouais. Bon point. Moi, je suis content de la nomination de Lade Lambert parce que je pense que ça confirme un des grands principes, une des grandes règles du hockey. Puis il y a peu de gens qui la connaissent. J'entends déjà mon ami Alexandre Patsouris.
Je pense qu'il a rapport avec Québec.
Alors, quand t'es dans le trouble dans une organisation, retourne-toi vers un ancien nordique pour relancer ton équipe. C'est une grande règle du hockey.
Tout le monde a compris cette règle-là. Sauf Gary Bettman, je pense.
Alors, Lade Lambert, qui a joué 3 ans avec les Nordiques, ça va diriger cette équipe-là. Bon, évidemment, je blague, mais c'est un entraîneur associé depuis longtemps dans la Ligue nationale. Alors, il a décidé de rester à l'interne. Bon, bonne chance à lui.
Moi, excuse Alex, juste pour un petit mot sur Lambert, j'ai été surpris parce que c'est la copie de Barry Trotz.
Ben oui.
On engage un autre Barry Trotz parce que Lane Lambert, il a été l'adjoint de Barry Trotz à Nashville, à Washington et avec les Islanders. Ouais. Lane Lambert, ça doit faire 10 ans qu'il est avec Barry Trotz. Donc, c'est comme Barry numéro 2. Donc, ce côté-là, j'ai été surpris.
Ben, Lamoriello, d'ailleurs, a souligné que c'est peut-être c'est un petit peu le même langage qu'avait Marc Bergevin à Montréal, mais ça prend peut-être un nouveau dialogue avec les joueurs, une nouvelle voix auprès des joueurs. Puis c'est en effet, c'est une copie conforme de Trotz. Là. Ça fait presque 10 ans qu'ils travaillent ensemble étroitement. Il était entraîneur associé dans toutes ces années-là, ou presque. Ouais. Donc, en effet, on risque d'avoir le même style de jeu, mais peut-être avec comme...
Fait que tu me dis que c'est Lou Lamoriello, le spécialiste de l'analyse de la communication avec les joueurs.
Un autre bon old school.
Bergevin aussi, il disait ça.
Exact. Hey, messieurs, avez-vous des nouvelles? Martin Saint-Louis, ça fait quand même trois semaines?
Je suis étonné qu'il n'y ait pas de nouvelles encore. Je comprends pas ça. Est-ce que Martin veut revenir? Il a pourtant dit oui plusieurs fois. Il l'a dit pendant la saison, il l'a dit au bilan. Je comprends pas ce long délai avant de statuer sur son retour ou non. Je trouve ça bizarre.
Je m'attendais à ce que ça se fasse plus vite que ça, même. Je me disais.
Pas surpris.
Non?
Pas surpris dans le sens que pour moi, c'est rien qu'une formalité. Les deux parties, on se dit, écoute, en ce moment, la priorité là, pour eux, là, c'est vraiment le recrutement, c'est vraiment les réunions avec les dépisteurs. En ce moment, ils vont passer 2 semaines en Finlande. Donc, pour eux, là, c'est là la priorité. Pour Martin, mais qu'ils reviennent de la Finlande, tout ça, ils vont avoir amplement de temps. Pour moi, ça prouve que c'est une formalité pour eux autres, là, que c'est réglé, puis il reste un qu'à signer les papiers, puis l'annoncer.
OK. Fait que tu vois pas ça comme quelque chose de négatif. Je me serais attendu de
l'avoir
plus... OK. Bon. Tu vois, regarde, tu nous remets à notre place, pas trop long. Hein?
Bon, c'est mon opinion.
Alex, t'as pas l'air sûr.
Comment tu veux? Vas-y. J'ai pas d'informations privilégiées. Je lis juste entre les lignes ce qui est arrivé au point de presse de fin d'année où Saint-Louis, je pense, était aussi tanné de rencontrer les journalistes. Ça faisait 3 fois, 24 heures. Tu sais. Mais il est revenu sur des éléments peut-être un petit peu plus négatifs de la fin de saison, des choses qu'il a trouvées difficiles. C'est un petit peu plus difficile là, que ce qu'il croyait être dans la Ligue nationale et tout ça. Je pense pas que ça bloque du côté tant du Canadien que peut-être que Saint-Louis doit se poser la question. Bon, je m'engage pour combien d'années? Mm-hmm. C'est quoi le terme? Dans quelles conditions?
Et Kent Hughes a dit c'est 3 ans. Nous, on vise 3 ans.
Ouais, c'est ça. Ben, peut-être que, moi, si je suis chez le Canadien, je pense pas que le Canadien va être au sommet dans 3 ans. Je pense que c'est plus un projet sur 5 ans. Tu sais, il veut peut-être certaines garanties aussi par rapport à l'équipe. Tu sais, il a quand même été pas super satisfait quand ils ont échangé Lekkonen. Puis, tu sais, on a vu après tout l'effondrement défensif de l'équipe. Tu sais, peut-être en tout cas, Ed Gessner à sa place, peut-être que je demanderais certaines conditions avant de re-signer.
OK. Messieurs, le temps file, mais il faut parler de Carey Price qui est en nomination pour le trophée Bill Masterton avec Zdeno Chara et Kevin Hayes. Chara, parce que écoute, Chara est encore là dans la Ligue nationale, ce qui est assez spectaculaire. Kevin Hayes, on sait que son frère est décédé et Carey Price, avec tout ce qui s'est passé, avec le programme de soutien aux joueurs de la Ligue nationale, avec la blessure... Je sais pas comment vous voyez ça. Je trouve que c'est un beau coup de chapeau à Carey Price qui soit en nomination, Philippe.
Oui, tout à fait. Puis s'il le gagne, ce sera un autre trophée qui va s'ajouter à sa longue liste. Cela dit, il en veut un trophée. C'est Paul Masterton. Il en manque un. Non, c'est la Coupe Stanley. Et c'est surtout celui-là que je lui souhaite de gagner dans sa carrière, que ce soit à Montréal ou ailleurs.
Ouais. Stéphane, t'as pas eu de texto récemment avec Carey, non?
Non. Non, au contraire, mais non, je suis content. Mais c'est une belle. C'est une année difficile physiquement et mentalement pour Carey. Il a passé à travers de beaucoup de choses. Et puis la belle nouvelle, c'est qu'il a l'air d'avoir sorti de cette année difficile-là, très, très serein avec lui-même, peu importe ce qui va arriver. Et puis mais comme Phil dit, c'est probablement un des seuls trophées qu'il n'a pas gagné, mais probablement pas celle-là qu'il voulait. Et puis les deux autres, tous, c'est des belles nominations. Spécialement Kevin Hayes, là, ça a été une année difficile pour lui. Puis j'ai vu des reportages qui aide la femme de son frère Jimmy. Puis Jimmy que j'ai connu avec les Blackhawks de Chicago. Et puis qui s'occupe des jeunes, des enfants, de la famille. Et puis tout, qui a pris ça en main, toute la famille de son frère. Fait que ça et tout, c'est une belle histoire.
Ouais, clairement. Puis je répète, beaucoup de chapeau pour Carey Price. Alexandre, je sais pas si c'était un mot que tu voulais ajouter.
Ben, c'est ce genre de trophée que t'es content d'être en nomination. Ouais. C'est juste être une nomination, c'est une victoire. En soi, on dit ça des fois des Jeux Olympiques, là, juste aller aux Jeux Olympiques, c'est une victoire. Ça. Pour moi, juste être en nomination pour ça, c'est quand même un coup de chapeau. C'est une claque dans le dos, en fait, de dire comme, hey, tu sais, we got your back. Là. Ouais. Fait que c'est très bien.
Voyons la suite des choses. Bon, ben messieurs, les séries, deuxième tour, ça débute demain. Je vous rappelle, les Panthers de la Floride qui affrontent le Lightning de Tampa Bay. Les Blues de Saint-Louis contre le Colorado. Mercredi, ça sera les Rangers qui font
face. T'as pris qui déjà, Saint-Louis-Colorado, Jérémy? Répète.
J'ai pris les Blues de Saint-Louis.
T'as pris les Blues de Saint-Louis, d'accord. Non, je veux juste être sûr, j'avais bien entendu pendant
Tu veux qu'on parle de la transaction de Piqué?
Anytime.
Le gars, il est prêt. Anytime. OK, et regarde, ça conclut ce balado 53 et nous, on se reparlera mardi prochain, le 24 mai. Toujours un plaisir. Merci beaucoup, Philippe.
Allez, merci, Jérémy. Merci. Salut, Stéphane.
Merci, Alexandre. Merci, Stéphane. Toujours un plaisir.
Salut.
Voilà ce qui complète ce
balado.
Merci,
les gars. Bonne semaine.
Oui, et on se reparle donc la semaine prochaine. Merci d'avoir été là.